Chapitre 13. J'avais un secret pressentiment que je ne tarderais pas à être éloigné des affaires. Je n'en doutais plus après ce dernier entretien. D'ailleurs, la connaissance des manœuvres de mes ennemis n'avait pu m'échapper. J'en avais de puissants qui épiaient l'occasion de me renverser. Mon opposition aux dernières mesures leur servit de prétexte. Non seulement j'avais contre moi Lucien et Joseph, mais encore leur sœur Élisa, femme hautaine, nerveuse, passionnée, dissolue, dévorée par le double hoquet de l'amour et de l'ambition. Elle était menée, comme on l'a vu, par le poète Fontane, dont elle s'était engouée, et à qui elle ouvrait alors toutes les portes de la faveur et de la fortune. Timide et avisée en politique, Fontane n'agissait lui-même que sous l'influence d'une coterie, soi-disant religieuse et monarchique. Elle remaniait une partie des journaux et avait à elle son acteur romantique, faisant du christianisme un poème et de notre langue un jargon.
Fier de ses succès, de sa faveur et de sa petite cour littéraire, Fontane était tout glorieux d'amener au pied de son illustre émule de Charlemagne les écrivains novices dont il dirigeait les essais et qui se croyaient, ainsi que lui, appelés à reconstituer la société avec des vieilleries monarchiques. Ce Céladon de la littérature, auteur élégant et pur, n'osait pas trop m'attaquer en face, mais dans des mémoires clandestins qu'il faisait remettre au premier consul, il dénigrait toutes les doctrines, toutes les institutions libérales, cherchant à rendre suspects les hommes marquants de la Révolution qu'il représentait comme des ennemis invétérés de l'unité du pouvoir.
Son thème, sa conclusion obligée, était de faire recommencer Charlemagne par Napoléon afin que la Révolution pût se reposer et se perdre dans un grand et puissant empire. C'était la chimère du jour, ou plutôt on savait que telle était la marotte du premier consul et de ses intimes. Aussi, tous les aspirants aux places, aux faveurs, à la fortune, ne manquaient pas de donner leurs plans, leurs vues dans ce sens, avec plus ou moins d'exagération et d'extravagance. Vers cette époque aussi apparut dans la fabrication des écritures occultes le pamphlétaire F. D'abord agent des agents de Louis XVIII, puis agent de Lucien à Londres lors des préliminaires, d'où il avait écrit d'un ton tranchant et suffisant « Force pauvreté sur les ressorts et le jeu d'un gouvernement qu'il était hors d'état de comprendre ». Mis à la gratification pour quelques rapports qui, de cabinet, me parvinrent anonymes, il s'enhardit et, profitant de la faveur de Lavalette qui régissait les postes, il fit arriver au chef de l'État les premiers essais d'une correspondance devenue ensuite plus régulière. Épiant l'air du bureau, il dissertait à tort et à travers sur Charlemagne, sur Louis XIV, sur l'ordre social, parlant de reconstruction, d'unité de pouvoir, de monarchie, toutes choses incompatibles, bien entendu, avec les Jacobins, même avec ce qu'il appelait d'un air capable les hommes forts de la Révolution. Tout en recueillant les bruits de salon et de café, le correspondant officieux forgeait mille historiettes contre moi et contre la politique générale dont il faisait un épouvantail, c'était le mot d'ordre. Enfin, tous les ressorts étaient prêts, et le moment opportun, on avait sondé adroitement Duroc et Savary, et on arrêta dans une réunion à Morfontaine chez Joseph, que dans un prochain conseil de famille où assisteraient Cambacérès et Lebrun, on ferait lecture d'un mémoire où, sans m'attaquer personnellement, on s'efforcerait d'établir que, depuis l'établissement du consulat à vie et de la paix générale, le ministère de la police était un pouvoir inutile et dangereux. Inutile contre les royalistes qui, désarmés et soumis, ne demandaient qu'à se rallier au gouvernement, dangereux comme étant d'institution républicaine et le paratonnerre des anarchistes incurables qui y trouvaient protection et salaire. On en concluait qu'il serait impolitique de laisser un si grand pouvoir dans les mains d'un seul homme, que c'était mettre à sa merci toute la machine du gouvernement. Venait ensuite un plan rédigé par Roderer, le faiseur de Joseph, qui avait pour objet de réunir la police au ministre de la Justice dans les mains de Régnier sous le nom de grand juge. Quand j'appris ce tripotage, et avant même que l'arrêté des consuls ne fût signé, je ne pus m'empêcher de dire à mes amis que j'étais remplacé par une grosse bête, et c'était vrai. On ne désigna plus depuis l'épais et lourd Régnier que sous le nom de gros juge. Je ne fis rien pour parer le coup, tant j'y étais préparé. Aussi, mon assurance et mon calme étonnèrent le premier consul, quand, au dernier travail, il me dit « Monsieur Fouché, vous avez très bien servi le gouvernement, qui ne se bornera point aux récompenses qu'il vient de vous décerner, car dès aujourd'hui, vous faites partie du premier corps de l'État. C'est avec regret que je me sépare d'un homme de votre mérite, mais il a bien fallu prouver à l'Europe que je m'enfonçais franchement dans le système pacifique et que je me reposais sur l'amour des Français. » Dans les nouveaux arrangements que je viens d'arrêter, la police n'est plus qu'une branche du ministère de la Justice et vous ne pouviez y figurer convenablement. Mais soyez sûr que je ne renonce ni à vos conseils ni à vos services, il ne s'agit pas du tout ici d'une disgrâce et n'allez pas prêter l'oreille au bavardage des salons du Faubourg Saint-Germain ni à ceux des tabagies où se rassemblent les vieux orateurs des clubs dont vous vous êtes si souvent moqué avec moi. Après l'avoir remercié des témoignages de satisfaction qu'il daignait me donner, je ne lui dissimulais pas que les changements qu'il avait jugés à propos de déterminer ne m'avaient nullement pris au dépourvu. « Quoi ? Vous vous en doutiez ? S'écria-t-il. « Sans en être sûr précisément, répondis-je, je m'y étais préparé d'après quelques indices et certains chuchotements parvenus jusqu'à moi. » Je le suppliais de croire qu'il n'entrait dans mes regrets aucune vue personnelle, que j'étais mu seulement par l'extrême sollicitude que m'inspirerait toujours la sûreté de sa personne et de son gouvernement, que ses sentiments me portaient à le prier de me permettre de lui présenter par écrit mes dernières réflexions sur la situation présente. « Communiquez-moi tout ce que vous voudrez, citoyen sénateur, me dit-il, tout ce qui viendra de vous attirera toujours mon attention. » Je demandai et j'obtins pour le lendemain une audience dans laquelle je me proposais de lui rendre un compte détaillé de l'emploi des fonds secrets de mon ministère. J'allais rédiger mon rapport de clôture pour lequel j'avais déjà pris des notes, il était court et nerveux. Je représentai d'abord au premier consul que rien n'était moins assuré à mes yeux que l'état de paix, ce que je rendis sensible en indiquant les germes de plus d'une guerre à venir. J'ajoutais que dans un tel état de choses, et l'opinion publique étant peu favorable aux empiétements du pouvoir, il serait impolitique de dépouiller la magistrature suprême des garanties d'une police vigilante, que, loin de s'endormir dans le système d'une imprudente sécurité, au moment où l'on venait de fonder brusquement la permanence de l'autorité exécutive, il fallait qu'elle se conciliât l'opinion publique et rattachât tous les partis au nouvel ordre des choses. Qu'on n'y parviendrait qu'en abjurant toute espèce de prévention et de répugnance pour de tels hommes, que tout en désapprouvant le système qui avait prévalu dans le Conseil, je m'étais toujours expliqué dans l'intérêt du premier consul, comme auraient pu le faire ceux de ses serviteurs les plus dévoués et les plus intimes, que nos intentions étaient les mêmes à tous, mais nos vues et nos moyens différents. Que si l'on persistait dans des vues erronées, on marcherait sans le vouloir à une oppression intolérable ou à la contre-révolution, qu'il fallait surtout éviter de mettre la chose publique à la merci de mains imprudentes ou d'une coterie d'eunuques politiques qui, au premier ébranlement, livrerait l'État aux royalistes et à l'étranger. Que c'était dans les opinions fortes et dans les intérêts nouveaux qu'on devait chercher un appui solide, que celui de l'armée ne suffirait pas à un pouvoir trop colossal pour ne pas exciter les plus vives alarmes en Europe, qu'on ne saurait trop s'étudier à ne pas compromettre les destinées de la France aux chances de nouvelles guerres qui découleraient nécessairement de la trêve armée dans laquelle se reposaient les forces respectives, qu'avant de rentrer dans l'arène, il fallait s'assurer de l'affection de l'intérieur et grouper autour du gouvernement, non des brouillons, des anarchistes ou des contre-révolutionnaires, mais des hommes droits et à caractère qui ne verraient pour eux de sécurité ni de bien-être que dans son maintien. Qu'on les trouverait parmi les hommes de 1789 et tous les amissages de la liberté qui, détestant les excès de la révolution, tenaient à l'établissement d'un gouvernement fort et modéré. Et enfin que, dans la situation précaire où se trouvaient la France et l'Europe, le chef d'État ne devait tenir l'épée dans le fourreau et s'abandonner à une douce sécurité qu'entouré de ses amis et préservé par eux. Venait ensuite l'application de mes vues et de mon système aux différents partis qui divisaient l'État, partis dont les passions et les couleurs s'affaiblissaient, il est vrai, de plus en plus, mais qu'un choc, une imprudence, des fautes répétées et une nouvelle guerre pouvait réveiller et mettre aux prises. Le lendemain, je lui remis ce mémoire qui était en quelque sorte mon testament politique. Il le prit de mes mains avec une affabilité affectée. Je mis ensuite sous ses yeux le compte détaillé de ma gestion secrète et voyant avec surprise que j'avais une énorme réserve de près de 2 400 000 francs, « Citoyen sénateur, me dit-il, je serais plus généreux et plus équitable que ne le fût Sieyès à l'égard de ce pauvre Roger Ducos en se partageant le gras de caisse du directoire expirant. Gardez la moitié de la somme que vous me remettez. Ce n'est pas trop comme marque de ma satisfaction personnelle et privée. L'autre moitié entrera dans la caisse de ma police particulière qui, d'après vos sages avis, prendra un nouvel essor et sur laquelle je vous prierai de me donner souvent vos idées. » Touché de ce procédé, je remerciai le premier consul de m'élever ainsi au niveau des hommes les plus récompensés de son gouvernement. Il venait aussi de me conférer la sénatorie d'Aix, et je lui protestai d'être à jamais dévoué aux intérêts de sa gloire. J'étais de bonne foi, persuadé alors, comme je le suis encore aujourd'hui, qu'en supprimant la police générale, il n'avait eu en vue que de se défaire d'une institution qui, n'ayant pu sauver ce qu'il avait renversé lui-même, lui parut plus redoutable qu'utile. C'était l'instrument qu'il redoutait alors plus que les mains qui en avaient la direction. Il n'en avait pas moins cédé à une intrigue en s'abusant sur les motifs qu'avaient allégués mes adversaires. En un mot, Bonaparte, rassuré par la paix générale contre les tentatives des royalistes, s'imagina qu'il n'avait plus d'autres ennemis que dans les hommes de la Révolution, et comme on ne cessait de lui dire que ces hommes s'attachaient à un ministère qui, né de la Révolution, protégeait ses intérêts et défendait ses doctrines, il le brisa, croyant par là rester l'arbitre du mode avec lequel il lui plairait d'exercer le pouvoir. Je rentrai dans la vie privée, avec une sorte de contentement et de bonheur domestique dont je m'étais accoutumé à goûter la douceur au milieu même des plus grandes affaires. D'un autre côté, je me retrouvais avec un tel surcroît de fortune et de considération que je ne me sentis ni frappé ni déchu. Mes ennemis en furent déconcertés. J'acquis même dans le Sénat, sur ceux de mes collègues les plus honorables, une influence marquée, mais je ne fus rien moins que tenté d'en abuser. Je m'abstins même d'en tirer aucun avantage, car je savais qu'on avait les yeux sur moi. Je passai des jours heureux et tranquilles sur ma terre de Pontcarré, ne venant à Paris que rarement, dans l'automne de 1802, quand il plut au premier consul de me donner un témoignage public de faveur et de confiance. Je fus appelé à faire partie d'une commission chargée de conférer avec les députés des différents cantons de Suisse, pays trop voisin de la France, pour qu'elle n'y exerçât pas une intervention puissante. Par sa position géographique, la Suisse semblait destinée à être le boulevard de cette partie de la France la plus accessible qui n'a, pour ainsi dire, d'autres frontières militaires que ses gorges, d'autres sentinelles que ses pâtres. Sous ce point de vue, la situation politique de la Suisse devait d'autant plus intéresser le premier consul qu'il n'avait pas peu contribué, après la paix de Campo Formio, à porter le directoire à l'envahir et à l'occuper militairement. Son expérience et la hauteur de ses vues lui firent comprendre que cette fois il fallait éviter les mêmes fautes et les mêmes excès. Sa marche fut bien plus étroite et plus habile. L'indépendance de la Suisse venait d'être reconnue par le traité de Lunéville. Ce traité lui assurait le droit de se donner le gouvernement qui lui conviendrait. Elle se crut redevable de son indépendance au premier consul, qui s'attendait bien que les Suisses abuseraient de leur émancipation. En effet, ils étaient déchirés par deux factions opposées, savoir le parti unitaire ou démocratique qui voulait la République une et indivisible, et le parti fédéraliste ou des hommes de la vieille aristocratie qui réclamaient les anciennes institutions. Le parti unitaire était né de la Révolution française, l'autre était celui de l'Ancien Régime et il penchait secrètement pour l'Autriche. Entre ces deux factions flottait le parti modéré ou neutre. Abandonnés à eux-mêmes pendant toute l'année 1802, les unitaires et les fédéralistes en vinrent au déchirement et à la guerre civile, tour à tour secrètement encouragés par notre ministre Verninac, d'après l'impulsion du cabinet des Tuileries, dont la politique visait à un dénouement calculé, avec art et par cela même inévitable. Le parti fédéraliste ayant pris le dessus, les unitaires se jetèrent dans les bras de la France. C'est ce qu'attendait le premier consul. Tout à coup, il fait apparaître son aide-de-camp Rapp, porteur d'une proclamation, où il parlait en maître plutôt qu'en médiateur, ordonnant à tous les partis de poser les armes, faisant occuper militairement la Suisse par un corps d'armée sous les ordres du général Ney. En cédant à la force, la dernière diète fédérative ne céda rien de ses droits. Aussi, les cantons confédérés furent-ils traités en pays conquis, et l'on vit Bonaparte procéder à sa médiation comme à une conquête qui eût été le prix de la valeur. Ainsi s'évanouirent les derniers efforts des Suisses pour recouvrer leurs anciennes lois et leur ancien gouvernement. Les délégués des deux partis eurent rendez-vous à Paris pour y implorer la puissante protection du médiateur. 36 députés des unitaires y accoururent, les fédéralistes furent plus lents tant ils répugnaient à une démarche qu'ils regardaient comme une humiliation. Leurs délégués vinrent pourtant, au nombre de 15, et tous se retrouvèrent réunis à Paris au mois de décembre. Ce fut alors que le premier consul nomma la commission chargée de conférer avec eux et de préparer l'acte de médiation qui devait mettre un terme aux troubles de la Suisse. Cette commission, présidée par le sénateur Barthélemy, se composait de 2 sénateurs, le président et moi compris, et les 2 conseillers d'État, Roederer et de Meunier. Le choix du président ne pouvait être plus heureux. De même que le sénateur Barthélemy, je fus assailli par ces bons Suisses qui avaient recours à nous comme à un aréopage. J'avais beau leur dire que toute décision ultérieure dépendrait de la volonté du premier consul, dont nous n'étions que les rapporteurs, ils s'obstinaient à me croire en particulier une grande influence, mon cabinet et mon salon ne se désemplissaient pas. Les conférences s'ouvrirent et, dans une première séance tenue le 10 décembre, notre président donna lecture aux délégués d'une lettre par laquelle le premier consul leur manifestait ses intentions. « La nature, leur disait-il, a fait votre état fédératif. Vouloir le vaincre ne peut être d'un homme sage. » Cet oracle fut un coup de foudre pour le parti unitaire. Il en fut terrassé. Toutefois, pour modérer le triomphe des fédéralistes qui s'imaginaient déjà voir renaître l'ancien ordre des choses, la lettre consulaire ajoutait « La renonciation à tous les privilèges est votre premier besoin et votre premier droit. » Ainsi, plus d'ancienne aristocratie. Lettre contenait à la fin la déclaration expresse que la France et la République italienne ne permettraient jamais qu'il s'établît en Suisse un système de nature à favoriser les intérêts des ennemis de l'Italie et de la France. Je proposai aussitôt que la consulte nomma une commission de 5 membres avec lesquels la commission consulaire et le premier consul lui-même puissent conférer. Dès le lendemain, 12 décembre, Bonaparte eut avec la commission de la consulte, nous présents, une conférence et ses intentions furent plus clairement exprimées. Un tiers-parti se forma presque aussitôt qui finit par supplanter les unitaires et les fédéralistes que nous avions résolu de neutraliser. Une assez forte opposition de vues et d'intérêts donna lieu à des discussions très animées qui, interrompues et reprises, se prolongèrent jusqu'au 24 janvier 1803. Ce jour-là, le premier consul y mit un terme en faisant requérir la consulte de nommer des commissaires qui recevraient de sa main l'acte de médiation qu'il venait de faire dresser sur nos rapports et nos vues, acte sur lequel il leur serait permis de communiquer leurs observations. Appelés à une nouvelle conférence qui dura près de 8 heures, les commissaires suisses obtinrent différentes modifications au projet de constitution. Et le 19 février, ils reçurent de la main du premier consul, dans une séance solennelle, l'acte de médiation qui devait régir leur pays. Ce pacte imposait à la Suisse un nouveau pacte fédératif et déterminait en outre la constitution particulière de chaque canton. Le surlendemain, la consulte ayant été congédiée, la commission consulaire dont je faisais partie fit la clôture de ses séances et de ses procès-verbaux. Ainsi se termina l'intervention du gouvernement français dans les affaires intérieures de la Suisse. Il eût été difficile, je crois, d'imaginer un régime transitoire plus conforme aux vrais besoins de ses habitants. Jamais d'ailleurs Bonaparte n'abusa moins de son énorme prépondérance, et la Suisse est, sans contredit, de tous les États voisins ou éloignés sur lesquels il a influé, celui qu'il a le plus ménagé pendant les 15 années de son ascendant et de sa gloire. Pour rendre hommage à la vérité, j'ajouterai que l'acte de médiation de la Suisse fut imprégné autant que possible de l'esprit conciliant et modérateur par essence de mon collègue Barthélemy, et j'ose dire que de mon côté, je l'ai secondé de toutes mes forces et de tous mes moyens. J'eus à ce sujet plusieurs conférences particulières avec le premier consul. Mais que sa conduite à l'égard du reste de l'Europe ressembla peu à sa politique modérée envers nos voisins les Suisses. Tout avait été préparé ainsi afin de porter des coups sensibles à la Confédération germanique dont on voulait commencer la démolition. On avait renvoyé à une députation extraordinaire de l'Empire l'affaire des indemnités à donner à ceux des membres du corps germanique qui, en tout ou en partie, avaient été dépouillés de leur état et possession, tant par les diverses cessions que par la réunion de la rive gauche du Rhin à la France. La commission extraordinaire s'était constituée à Ratisbonne dans l'été de 1801, sous la médiation de la France et de la Russie. Ces opérations mirent en éveil tous nos intrigants en diplomatie. Ils en firent une mine qu'ils exploitèrent avec une impudeur qui d'abord révolta le chef de l'État, mais qu'il ne put réprimer tant qu'il y eut des personnages élevés qui s'en mêlèrent. Il était d'ailleurs naturellement indulgent pour toutes les exactions qui pesaient sur les étrangers. Dans cette grande affaire, notre influence domina l'influence russe. La commission extraordinaire nous donna son recès après sa 46e séance que, le 23 février 1803, à l'époque même où se terminait l'affaire de la médiation de la Suisse. Qu'on juge de l'activité des intrigues et que de marchés honteux eurent lieu dans ce long intervalle, surtout à mesure qu'on approchait du dénouement. Quand les plaintes arrivaient, que de grandes friponneries étaient dévoilées, on rejetait tout sur les manèges des bureaux, où il n'y avait que des entremetteurs, tandis que tout partait de certains cabinets, de certains boudoirs, où l'on vendait des indemnités et des principautés. Quoique n'étant plus dans les affaires, c'était toujours à moi que s'adressaient les plaintes et les révélations dans les dénis de justice. On s'obstinait à me croire influent et à porter de l'oreille du maître. Mais ce ne fut pas du côté de l'Allemagne, déjà dans une décadence visible, que se forma la tempête qui devait nous ramener les fléaux de la guerre et des révolutions. Ce fut au-delà du Pas-de-Calais. Ce que j'avais prévu se réalisa par une suite de causes irrésistibles. L'enthousiasme que la paix d'Amiens avait excité en Angleterre n'avait pas été de longue durée. Le cabinet anglais, sur ses gardes et croyant peu à la sincérité du premier consul, différait sous certains prétextes de se dessaisir du Cap de Bonne-Espérance, de Malte et d'Alexandrie en Égypte. Mais ceci ne touchait que des relations politiques. Bonaparte y était moins sensible qu'au maintien de son autorité personnelle qui, dans les papiers anglais, continuait d'être attaqué avec une virulence à laquelle il ne pouvait s'accoutumer. Sa police était alors si débile qu'on le vit bientôt se débattre lui-même sans dignité et sans succès contre la presse et les intrigues anglaises. À chaque note contre les invectives des journalistes de Londres, les ministres de la Grande-Bretagne répondaient que c'était une conséquence de la liberté de la presse qu'ils y étaient eux-mêmes exposés et qu'il n'y avait, contre un tel abus, d'autre recours que celui des lois. Aveuglé par sa colère, le premier consul, mal conseillé, donna dans le piège. Il se commit avec le pamphlétaire Pelletier, qui ne fut condamné à une amende que pour mieux triompher de la puissance de son adversaire. Une riche souscription, bientôt remplie par l'élite de l'Angleterre, le mit en état de faire à Bonaparte une guerre de plumes devant laquelle pâlirent le Moniteur et l'Argus. De là le ressentiment que Bonaparte éprouva contre l'Angleterre. Chaque vent qui en souffle, disait-il, n'apporte rien qu'inimitié et que haine contre ma personne. Il jugea dès lors que la paix ne pouvait lui convenir, qu'elle ne lui laisserait pas assez de facilité pour agrandir sa domination au dehors et gênerait l'extension de sa puissance intérieure. Que d'ailleurs nos relations journalières avec l'Angleterre modifiaient nos idées politiques et réveillaient nos idées de liberté. Dès lors, il résolut de nous priver de tout rapport avec un peuple libre. Les plus grossières invectives contre le gouvernement et les institutions des Anglais salirent nos journaux, qui prirent un ton rogue et furibond. N'ayant plus ni police ni esprit public, le premier consul eut recours aux artifices de son ministre des Relations extérieures pour fausser l'opinion des Français. Des peignuages obscurcirent une paix devenue problématique, mais à laquelle Bonaparte tenait encore malgré lui par une sorte d'effroi intérieur qui lui faisait présager des catastrophes. Au-delà de la Manche, tout devenait hostile, et les griefs contre le premier consul étaient clairement articulés. On lui reprochait d'avoir incorporé le Piémont et l'île d'Elbe, d'avoir disposé de la Toscane et gardé Palerme, d'imposer de nouvelles lois aux républiques liguriennes et helvétiques, de réunir dans sa main le gouvernement de la République italienne, de traiter la Hollande comme une province française, de rassembler des forces considérables sur les côtes de Bretagne sous prétexte d'une nouvelle expédition contre Saint-Domingue, de faire stationner à l'embouchure de la Meuse un autre corps dont l'importance était hors de proportion avec son objet avoué, celui de prendre possession de la Louisiane, enfin d'envoyer des officiers d'artillerie et du génie comme agents commerciaux explorer les ports et les rades de la Grande-Bretagne pour se disposer ainsi au sein de la paix à une invasion furtive sur les côtes d'Angleterre. Le seul grief que le premier consul put élever contre les Anglais se renfermait dans le refus de rendre Malte. Mais il répondait que les changements politiques survenus depuis le traité d'Amiens rendaient cette restitution impossible sans quelques arrangements préalables. Il est certain qu'on ne mit pas assez de circonspection dans les opérations politiques dirigées contre l'Angleterre. Si Bonaparte eût voulu le maintien de la paix, il aurait soigneusement évité de donner à cette puissance de l'ombrage et des inquiétudes sur ses possessions de l'Inde, et se fut abstenu d'applaudir aux fanfaronnades de la mission de Sébastiani en Syrie et en Turquie. Un entretien imprudent avec Lord Wiseworth accéléra la rupture. Ce fut là l'instant critique de la vie politique de Bonaparte. Je jugeais dès lors qu'il passerait bientôt d'une certaine modération comme chef de gouvernement à des actes d'exagération, d'emportement et même de fureur. Tel fut son décret du 22 mai 1803 ordonnant d'arrêter tous les Anglais qui commerçaient ou voyageaient en France. Il n'avait point encore eu d'exemple d'une pareille atteinte contre le droit des gens. M. de Talleyrand put-il se prêter à devenir le principal instrument d'un acte si sauvage, lui qui avait donné l'assurance expresse aux Anglais résidant à Paris qui jouirait, après le départ de leur ambassadeur, de la protection du gouvernement avec autant d'étendue que durant son séjour. S'il avait eu le courage de se retirer, que serait devenu Napoléon sans haute police et sans ministre capable de balancer la politique de l'Europe? Que nous aurions d'autres griefs à articuler, d'autres accusations à porter au sujet de coopérations plus monstrueuses? Je me crus heureux alors de n'être plus pour rien dans les affaires. Qui sait, j'aurais peut-être fléchi tout comme un autre, mais au moins aurais-je constaté ma résistance et pris acte de ma désapprobation. Sans plus de délai, Bonaparte se mit en possession de l'électorat de Hanovre et ordonna le blocus de l'Elbe et du Weser. Toutes ses pensées se dirigèrent vers l'exécution du grand projet de descente sur la côte ennemie. On couvrit de Caen les falaises d'Ostende, de Dunkerque et de Boulogne, on fit armer les escadres à Toulon, à Rochefort et à Brest, on fit couvrir nos chantiers de péniches, de prames, de chaloupes et de bateaux canonniers. De son côté, l'Angleterre prit toutes ses mesures de défense. Sa marine fut portée à 469 vaisseaux de guerre et une flottille de 800 bâtiments garda ses côtes. Toute sa population nationale courut aux armes. Des camps s'élevèrent sur les dunes de Douvres, des comtés de Sussex et de Kent. Les deux armées n'étaient plus séparées que par le détroit, et les flottilles ennemies venaient insulter les nôtres que protégeait une côte hérissée de canons.